Wow! On va parler du cœur d'un leader. Est-ce que ça vous tente d'aborder ce sujet-là? Parce que, vous savez, c'est beau développer des leaders. C'est beau de développer des leaders, de les former. Mais avant d'aller trop loin dans le processus, c'est important de découvrir quel est son cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont montés rapidement dans leur leadership et sont descendus aussi rapidement. Parce que le micro, il bug un peu. Ils sont descendus aussi rapidement. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas été aussi formé que leur formation extérieure ou leur mandat extérieur a monté. Alors, l'idée du verset qu'il nous donne ici, c'est Psaume 78-72, qui dit « Et David les a fait paître le peuple avec un cœur intègre et les a conduits avec des mains habiles. » Et je peux-tu juste vous expliquer un peu le principe de « equip » Parce que quand vous allez amener ce matériel-là à votre église, à votre groupe jeunesse, à vos leaders, partout où vous voulez former quelqu'un, vous devez comprendre que Equip, chaque livre de Equip a trois étapes. La première étape, c'est la formation spirituelle. Et ça, c'est bien que vous le marquiez parce que vous allez comprendre le principe de comment c'est fait Equip. La première étape, c'est la formation spirituelle. Donc, les deux premières leçons de chacun de vos cahiers, c'est de la formation spirituelle. Les deux autres leçons de votre cahier, c'est former les habilités dans les gens, aller chercher les habilités, développer l'habilité du leader dans chaque personne que vous allez former. C'est la deuxième étape. Donc, les leçons 3 et 4 que nous allons voir ce soir, demain matin, c'est les habiletés stratégiques du leader. Et troisièmement, c'est la stratégie ou la formation stratégique des leaders. Alors, à partir qu'on s'est formé, à partir qu'on a développé nos habiletés, comment on peut l'appliquer? Comment on peut le développer? Comment on peut le vivre dans la vraie vie? Et pourquoi on veut parler du cœur du leader, justement, aujourd'hui? Parce que souvent, quelqu'un appelle sur sa vie, la première chose qu'il veut faire, OK, comment on fait le ministère? Comment on veut, qui je pourrais diriger? Et les gens, souvent, ils sautent tout de suite à développer leur habilité, alors que la première étape qu'on devrait développer dans chaque leader, c'est quel est le cœur de la personne qui est devant vous? Quel est votre cœur? Comment est votre cœur? Est-ce que notre cœur est intègre? Est-ce que notre cœur est devant Dieu? Dieu cherche des gens qui ont le cœur intègre. Et même dans un chronique, c'est quoi ça dit? Que Dieu parcourt la terre de ses yeux pour donner sa faveur à ceux qui ont le cœur entier pour Dieu. Amen. Et je crois que Dieu cherche premièrement dans le leader. Il n'a pas dit « je parcours la terre pour trouver un leader qui va être capable de diriger les autres. » Un leader qui est capable de former les autres. Non, il a dit « je cherche sur la terre des gens qui ont le cœur entier pour lui. » Ça, c'est la première qualité. Est-ce que vous connaissez le baseball ici? Robert a dit qu'il n'y a pas d'illustration de baseball, mais désolé de tout de suite quand c'est ça. Vous savez c'est quoi le baseball? Qui connaît un peu c'est quoi le baseball? Yes, tous les jeunes de la Martinique ou ces pays-là, ils connaissent ça. J'ai joué au baseball longtemps dans ma vie. Et savez-vous quoi? Si j'essaye d'aller courir tout de suite au deuxième but, sans passer par le premier but, je vais être retiré facilement. Et je ne sais pas si ça marche comme ça aussi... Croquet, c'est une autre chose, mais au criquet. Mais si on essaye de sauter les étapes, et cette première étape-là, c'est l'étape spirituelle, laissez-moi vous dire que vos leaders que vous formez vont monter pendant un an de temps, mais peut-être l'année d'après vont être détruits parce que leur cœur n'était pas prêt à servir Dieu. Et moi, je veux pas élever des leaders qui vont être des champignons. Vous savez, un champignon, ça pousse pendant la nuit, hein? Ça pousse très rapidement, mais c'est facile à écraser. Moi, je veux élever des leaders qui vont être des érables, ou je ne sais pas c'est quoi votre arme qui est chêne en France. Nous, c'est des érables, les gros arbres qui donnent du sirop d'érable, c'est des érables. Et ici, c'est des chênes. Mais moi, je veux élever des leaders qui vont être des chênes, qui vont être bien, bien fondés dans la terre, près des courants d'eau, qui vont porter son fruit dans la bonne saison. Amen. Alors, c'est vraiment important d'avoir un cœur de leader formé. C'est ça qu'on veut discuter. Mais la première chose que je veux m'arrêter, c'est un cœur intègre. Je crois qu'il y a une qualité qui doit être dans chaque leader, c'est de l'intégrité. Et la définition de l'intégrité peut être ceci, dit ceci, c'est un attachement ferme à la morale. C'est de l'honnêteté, c'est de la sincérité, c'est être constant dans notre comportement, dans toutes circonstances. J'ai fait cette recherche aussi sur la définition de l'intégrité. Et quand on parle de l'intégrité des données, voici ce qu'on dit. Ça désigne l'état de données qui, lors de leur traitement, de leur conservation ou de leur transmission, n'a subi aucune altération. Ça, j'aime ça. Entre ce qui passe... Oui? Tu veux que je le redis? Quelle partie? OK. De l'intégrité des données? OK, écrivez ça. L'intégrité des données, ça désigne l'état d'une donnée qui, lors de leur traitement, lors de leur conservation ou lors de leur transmission, ne subit aucune altération ou changement, qu'il soit volontaire ou accidentel. Autrement dit, quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, quand on dit quelque chose, il n'y a aucune altération entre ce qui est dans mon cœur et ce qui est partagé dans la vie des autres. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il n'y a pas de changement. Ça dit même que l'intégrité, c'est qu'il n'y a pas de mélange entre ce qui est dans le cœur du leader et en ce qu'il montre en face des autres. Comment il est dans le public, comment il est devant l'estrade, comment il est quand il parle. Il n'y a pas de différence. Le leader est le même sur l'estrade qu'il est le même à la maison. C'est ça de l'intégrité. C'est ça le cœur d'un leader qui est droit devant Dieu. Même Proverbe 11:3 dit ceci, que l'intégrité du juste va le conduire. John Maxwell dit ceci, il dit que tout monte et tout dans le monde, tout monte ou redescend selon le leadership. Et je crois que tout leader monte ou redescend selon l'intégrité de son cœur. Et il y a trop de leaders autour de nous, on pourrait nommer des noms, mais ce n'est pas ça le but, qui ont monté, mais à cause qu'ils ont eu un manque d'intégrité un jour, tout détruit leur ministère. Et honnêtement, fait beaucoup de temps à l'Église avec un grand « et » qui nous met dans le trouble aujourd'hui. Vous savez, on peut diriger de plusieurs moyens, on peut influencer de plusieurs moyens, on peut influencer de notre position, de la puissance qu'on a, on peut même diriger de notre personnalité, mais je crois qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui dirige à partir d'un cœur intègre. Ça, c'est le vrai leader que Dieu cherche. Ils ont fait une étude aux États-Unis et ils ont demandé aux employeurs quelle serait la qualité principale que vous voulez avoir dans vos employés. Et presque à 100%, le retour était de l'honnêteté que je voulais dans mes employés. Et ils ont fait un sondage, le même sondage pour les employés. Ils ont demandé quelle serait la qualité première que vous voudriez dans votre leader ou dans votre boss, dans celui qui vous dirige. Et presque à 100%, la première qualité était de l'intégrité dans mon leader. Parce que quand il me dit que je vais avoir une augmentation de salaire, il va le faire. Amen! C'est pour ça qu'on veut de l'intégrité. Mais quand on veut de l'honnêteté dans nos employés, pourquoi? Parce que quand on leur demande de faire quelque chose, on sait qu'ils vont bien le faire. On sait qu'ils vont le faire avec honnêteté. C'est pour ça qu'on est qu'ils deviennent des bons employés. Qu'est-ce que je dis? John Maxwell dit souvent ceci. Ce que je suis, c'est que ce que je dis. Et vice-versa. Vous pouvez l'écrire si vous voulez. Ce que tu es, c'est ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Et vice-versa. Et ce que tu fais, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis aussi. Vous savez, dans le leadership, je ne suis pas pour vous, mais pour moi, je crois que personne ne s'attend que je sois parfait, à moins que je donne l'image d'un gars parfait. Personne ne s'attend que je sois parfait. Sinon, c'est parce que je donne l'image d'un gars parfait. Mais tout le monde s'attend que je sois honnête, par exemple. Et je crois que tout le monde s'attend que j'ai un cœur honnête. On va faire des erreurs. On n'est pas parfait. Le perfectionnisme n'est pas de Dieu. L'excellence dans qui nous sommes dans notre cœur, par exemple, et l'excellence dans ce qu'on démontre dans notre vie personnelle, ça, c'est ce que Dieu désire de nous. Je crois qu'il faut... écoutez bien ceci, il y a des promesses à l'intégrité. Proverbe 2:7 dit ceci, que l'intégrité, c'est la sagesse, c'est un bouclier. Proverbe 19 dit ceci, que l'intégrité, c'est la sécurité. Proverbe 27 dit ceci, que l'intégrité, il y a une bénédiction pour la future génération. Laissons Dieu préparer nos cœurs, frères et sœurs. Même si vous êtes des leaders, peut-être, je suis très humble ici devant vous, je suis très jeune, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et je suis béni que vous me laissez l'opportunité de vous partager qui je suis et ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Et devant vous, j'ai des leaders peut-être de 20, 30, 40 ans qui ont fait des choses encore bien plus grandioses que moi. Mais une chose est sûre, si je peux vous encourager, vérifiez toujours l'état de votre cœur. Vérifiez toujours l'état de votre cœur. Où votre cœur est rendu? Où est l'état de votre cœur? Même les psaumes vont dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Amen. Garde-le. Mets des barricades. Je ne sais pas si ça se dit des barricades ici. C'est bon. Mets des barricades autour de ton cœur. Protège-le le plus possible. Préparons nos cœurs. Préparons nos cœurs. Le leader dont Dieu se sert, on va commencer. Le leader dont Dieu se sert. Juste avant de vous dire, oui, c'est ça. Le leader dont Dieu se sert, même quand il a un grand but, la première chose, c'est qu'il a un grand but dans la vie. Et quel est le premier but qu'on doit avoir? Et on parle ici de l'histoire de Paul. Paul, sur le chemin de Damas, a rencontré d'une façon incroyable Jésus. Et il y a eu deux questions. La première question, c'est « Qui es-tu, Seigneur? » Et la deuxième question a été « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » La première question n'était pas « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » C'était « Qui es-tu, Seigneur? » Que le premier but de chaque leader, c'est de s'attacher à qui Dieu est. C'est de s'attacher à connaître. Même le texte dans Philippiens, ça dit que je veux gagner Christ, je veux être trouvé en lui. Mon but, c'est quoi? C'est de le connaître. Notre but, c'est savoir c'est quoi le cœur de Dieu. Comment son cœur bat pour votre ville? Comment son cœur bat pour votre génération? Comment son cœur bat pour la prochaine génération? Il faut s'attacher à qui Dieu est, ses qualités, son cœur, ses pensées, la parole de Dieu. Il faut apprendre à le découvrir. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que le leader ne doit pas doit être animé par une personne à aimer et non par une tâche à accomplir. Vous pouvez l'écrire, ça. Le leader doit être animé par une personne à aimer et non par une tâche à accomplir. Si on est animé par des tâches, on va faire du burn-out. Si on est animé par les tâches, on va s'épuiser. Dieu, il veut qu'on serve les autres, qu'on développe les autres à partir d'une personne à aimer. Et cette première personne, c'est Jésus. Amen. C'est la présence de Jésus. Je veux aimer la présence de Dieu. Parce que quand je développe la présence de Dieu, il y a une chose que je développe aussi, c'est la seigneurie de Dieu dans ma vie. Quand j'œuvre sans la présence de Dieu, je développe l'idolâtrie dans ma vie, frères et sœurs. Mais quand je sers de la présence de Dieu, je sers du cœur de Dieu. Et savez-vous quoi? Moi, je veux être capable, mais mon désir, c'est de servir, d'être tellement plein de la présence de Dieu que du débordement de sa présence dans ma vie, c'est ça qui va influencer les autres. C'est pas Joël Dumaine qui doit influencer les autres. C'est la présence de Dieu qui me remplit, qui déborde sur la vie des autres. Amen? C'est le cœur de Dieu, frères et sœurs. Et deuxième chose, Dwight L. Moody, je sais pas si vous connaissez Dwight L. Moody, c'est plus dans l'histoire de l'Amérique du Nord, mais il dit ceci, il dit « La plus grande tragédie, c'est la tentative du leader chrétien essayant de fonctionner dans des vérités non vécues. C'est notre tragédie aussi. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'incarnons pas. » La plus grande tragédie, c'est des leaders qui essayent de partager des choses qu'ils ne vivent pas nous-mêmes, qu'ils ne vivent pas eux-mêmes plutôt. Et probablement, vous avez eu déjà ce débat-là dans votre tête avant de prendre un micro puis prêcher et vous poser la question, est-ce que je vais partager? Est-ce que je le vis vraiment? Je crois que si on ne le vit pas vraiment, on devrait attendre avant de le prêcher. On va attendre de le vivre. On va attendre de laisser le Seigneur nous partager. La deuxième chose, ça dit qu'on doit courir vers un but. Le deuxième but, c'est qu'on doit courir vers quelque chose. On doit courir vers quelque chose. Courir vers le but de Dieu. courir pour atteindre le prix de sa vocation pour nous. Vous savez pourquoi il faut servir de la présence de Dieu? Il faut servir à partir du but de Dieu pour notre vie et non des choses qu'on veut faire pour Dieu. Des fois, on sort des choses, on se sort de Dieu en disant, « Seigneur, je veux faire ça pour toi, bénis ce que je fais. » Moi, je sais une chose, c'est si je découvre ce que Dieu a pour moi, sa bénédiction va venir automatiquement. Je n'ai pas besoin d'y demander. Et savez-vous quoi, ce serait la chose la plus triste? C'est que des leaders qui montent l'échelle de la vie, des leaders qui montent l'échelle du succès, des leaders qui prennent des assemblées, des leaders qui font des choses, puis ils arrivent au-dessus de la bâtisse, ils s'aperçoivent que ce n'était pas le but de Dieu pour leur vie. Et je crois que c'est au début de l'échelle qu'il faut vraiment préparer notre cœur et se mettre dans une position pour découvrir le but de Dieu pour nos vies. Il y a quelques questions et je vais vous demander en quelques secondes d'y répondre. Connaissez-vous le but que Dieu vous a donné? Et pasteur Paul me volait un punch tantôt, il a presque pris les mêmes questions. Répondez aux questions suivantes. Quels sont vos fardeaux en quelques instants? Quels sont vos fardeaux? Qu'est-ce qui pèse lourd sur votre vie? Qu'est-ce qui lâche jamais votre tête? Il dit ça, il faut que je l'accomplisse. Qu'est-ce qui pèse lourd? C'est-tu les âmes? C'est-tu les jeunes? C'est-tu l'évangélisation? Qu'est-ce qui pèse lourd sur votre vie? Quels sont vos dons spirituels? Peut-être vous pouvez les écrire. Quels sont vos dons spirituels? On va en parler un peu plus dans les prochaines sessions. Mais quels sont les dons spirituels que Dieu a mis dans vos vies? L'administration, l'appel prophétique, l'appel l'évangélisation, le pastorat. Qu'est-ce que Dieu a mis comme dons spirituels? Parole de connaissance, révélation de Dieu. Quels sont vos talents naturels? Quels sont vos talents naturels? Êtes-vous chanteur? Moi, je ne suis pas chanteur. Il me fait tourner la tête. Moi, ce serait plutôt « il agace mes oreilles », mais... Quels sont vos désirs et vos passions? Qu'est-ce que vous aimez faire? Quand vous voyez un pauvre dans la rue, est-ce que votre première réaction, c'est d'aller l'aider? Quand vous voyez un besoin, quelle est la première réaction dans vos vies? Comment êtes-vous perçu par les autres? Quels sont vos rêves? Quelles opportunités sont à votre disposition? Je voulais juste quelques instants pour répondre à ces questions-là. Pourquoi c'est important de se poser? Savez-vous pourquoi? Parce que je crois que Dieu ne nous appelle jamais de servir à l'extérieur des dons qu'il a déjà placés en nous. Ce ne serait pas logique qu'il nous donne des dons, des talents, des dons spirituels et qu'il nous demande de faire quelque chose qui n'est pas en ligne avec ça. Alors, c'est une bonne façon de découvrir le but de Dieu pour notre vie. Découvrez vos dons. Vous allez avoir des gens que vous allez enseigner ça. Enseignez aux gens autour de vous. Demandez-leur, c'est quoi les dons que vous avez? C'est quoi... Mettez pas quelqu'un à chanter back voice s'il chante comme une casserole. Ça se dit-tu, ça, ici, non? Ça se dit. Mettez pas quelqu'un à la garderie s'il déteste les enfants. Demandez-leur leurs dons avant et ensuite, vous allez pouvoir les positionner où ils vont être capables de fleurir, où ils vont être capables de prendre tout leur essor. John Maxwell a dit ceci, vous pouvez l'écrire. Il y a la définition du succès selon John Maxwell, c'est connaître le but de ta vie, premièrement. Deuxièmement, grandir à ton plein potentiel. Et troisièmement, investir dans les autres. Connaître le but de ta vie. Le succès pour ta vie, c'est connaître le but de ta vie, ce que Dieu a planifié d'avance pour toi pour accomplir. Grandir jusqu'à ton plein potentiel et investir dans les autres. Croyez-vous dans les autres, frères et sœurs? Est-ce que quand vous regardez les gens autour de vous, les autres leaders autour de vous, les jeunes qui sont dessus vous, est-ce que vous voyez leur potentiel ou voyez leurs défauts? Est-ce que vous voyez leur incapacité ou voyez ce qu'ils pourraient devenir? Je crois que Dieu, quand il nous regarde, il ne regarde pas à nos défauts, il regarde à notre potentiel. Il ne regarde pas à qui nous sommes là, il regarde à qui nous allons devenir un jour. Les gens, ils voyaient en Moïse un tueur. Dieu a vu en lui le chef d'un peuple. Les gens voyaient en Rahab une prostituée. Dieu a vu en elle la mère dans la lignée de Jésus. Wow! Gédéon voyant en lui que le plus ferme, ferme, des plus fermes, des plus fermes. Et Dieu l'a appelé vaillant héros et non zéro. Je crois que Dieu voit notre potentiel. Deuxième chose, par la grâce, le leader dont Dieu se sert, un cœur qui, par la grâce de Dieu, a écarté tout obstacle de sa vie. Amen. Dans Hébreux, on va juste lire le verset parce que c'est tellement bon. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous a été proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de ma foi. Alors, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Je ne sais pas pour vous, mais en tant que leader, il me semble que je suis plus la cible de l'ennemi qu'avant. Je pas pour vous, là, mais moi, j'ai réalisé ça. Quand j'étais bien tranquille dans mon coin, quand je dérangeais rien, quand je faisais pas grand-chose pour Dieu, quand j'ai pas réalisé tout mon potentiel, il me laissait tranquille. Mais quand j'ai voulu prendre un pas de foi et servir Dieu, j'ai réalisé qu'il y avait un peu plus de carabine visée vers moi. Et s'il y a une chose que je dois pas donner accès à l'ennemi dans ma vie, c'est d'être capable de me débarrasser des péchés qui veulent m'entourer si facilement. Et il y a plein de tentations. Aujourd'hui, frères et sœurs, et je crois que par la grâce de Dieu, il faut faire écarter ces obstacles-là. Vous savez, je sais pas pour vous, mais moi j'ai été élevé au Québec à garder le mythe du pasteur. Je sais pas pour vous ici, là, mais le mythe, ça se dit, le mythe du pasteur. Alors vous comprenez ça. Je vais essayer de parler en français là, ok? Ok, c'est québécois ça par exemple. Et le mythe du pasteur, moi j'ai été élevé à voir que les pasteurs étaient parfaits. Leur famille est parfaite. Je sais pourquoi mon épouse est fille de pasteur. Elle arrivait tous les dimanches matin avec une petite robe fleurie, pressée du matin, toute la bien peignée. Et tous les enfants marchaient droit. Ils s'assisaient au bon moment. Ils respiraient au bon moment. Ils avaient les bras des heures comme ça dans les champs. Ils faisaient tout ce qu'ils devaient faire pour être l'exemple. Et quand ils arrivaient à la maison, ils s'arrachaient les cheveux sur la tête. Parce qu'on crée attente du mythe du pasteur. L'homme parfait, l'homme saint. Quand tu arrives à l'église, c'est ça. On est saint et on est encouragé, malheureusement, à cause de cette pression-là, à mettre des masques. Combien d'entre nous, on est arrivé à l'église avec un grand sourire dans le visage, alors qu'on sait très bien qu'on venait de spiquer une querelle avec notre épouse? On arrive à l'église, puis « Alléluia! » J'avais dit que je chantais bien, hein? mais juste avant, c'était la chorale dans l'église. Là, il faut que tu ailles prêcher. On est encouragé à garder un masque, à faire un masque. Il n'y a rien de pire dans le leadership que commencer à se mettre des masques. Je crois que c'est une faute, une grande faute de commencer dans le leadership à se mettre des masques, à commencer à cacher. On a une erreur à cause qu'il n'y a pas une liberté d'intégrité, il n'y a pas une liberté d'ouvrir son cœur, de pouvoir partager nos faiblesses. À cause qu'il n'y a pas cette culture-là dans l'Église, le pasteur se met des masques et commence à cacher des choses dans sa vie. Combien d'entre vous avez été blessés dans le ministère? On pourrait tous lever la main quelque part. On a été blessés. Et à cause qu'il faut garder le mythe du pasteur qui est parfait, on cache nos masques. Je crois qu'en tant que leader, il faut être capable d'être honnête avec qui nous sommes, enlever les masques, demander pardon au Seigneur, se confesser et laisser cette pression-là tomber sur nos vies. Parce que si on garde quelque chose de caché, tout ce qui est caché un jour va venir à la lumière. Et je ne veux pas être trop haut dans mon échelle. Si je commence à monter avec quelque chose qui est caché. Parce que plus que tu es haut, plus que ça fait mal. Savez-vous la différence entre quelqu'un qui tombe du deuxième étage ou du 20e étage? Le premier étage, du deuxième étage, ça fait pouf! Ah! Du 20e, ça fait ah! Pouf! Ça m'est venu de même, je ne sais pas pourquoi. L'idée, c'est d'avoir un cœur. Vous savez, je peux-tu vous dire ça? Ça va faire un bon message, ça, frère et soeur. La première chose qu'Adam et Ève ont fait quand ils ont péché, ils se sont cachés de la présence de Dieu. Ils ont essayé de se couvrir. Et si on lit au verset, je crois, c'est Genèse 3, 21, ça dit ceci. C'est que Dieu savait c'était quoi leur péché. Dieu savait qu'est-ce qu'il y avait au plus profond de son cœur. Dieu n'a pas, il a pas dit où vous êtes parce qu'il ne savait pas où il était. Là. Il voulait juste savoir comment il était pour répondre. Mais ça dit au verset 21, ça dit qu'il a tué, que lui-même les a couverts. Ils ont essayé de se couvrir avec des feuilles. Et au verset 21, je crois, vous pouvez vérifier, je me trompe, mais ça dit que lui-même, Dieu les a couverts avec des peaux d'animaux. Savez-vous quoi? S'il les a couverts, c'est parce qu'il a tué un innocent. Et il a versé le sang d'un innocent. Mais au troisième chapitre de la Bible, Dieu prophétisait qu'un jour, il était pour envoyer son fils Jésus. Et s'il y a une chose qu'on doit avoir comme culture dans l'Église, frères et sœurs, c'est correct que les gens puissent confesser ce qu'ils vivent à l'intérieur. L'endroit le plus sécur sur la planète devrait être l'Église de Jésus-Christ. Amen. C'est pas la place où on se pointe du doigt. C'est la place où on se couvre les uns les autres. Amen. Dans l'amour de Jésus. Amen. Êtes-vous encore là? Yes! Le caractère. On va en reparler un peu plus tôt. Mais je crois, laissez-moi vous dire ceci. Écrivez ça, c'est une bonne phrase. Nous impressionnons les autres avec nos victoires. C'est bon ça. Nous impressionnons les autres avec nos victoires. Mais nous impactons les autres avec notre honnêteté et notre transparence. Ça devrait être sur votre bureau dans votre église quelque part. Laminez-le. Ça se dit-tu laminer ici? Encadrez-le. Ça se dit-tu mieux ça? On impressionne les autres par nos victoires, mais on impacte les gens par qui nous sommes. Vous savez, Joseph a perdu son manteau, mais il n'a jamais perdu son caractère et son intégrité, par exemple. Il a perdu son manteau, il s'est enfui avec pas grand-chose dessus. Il s'est enfui du péché. Il a perdu son manteau, il a perdu ce qui lui appartenait, il a perdu ses possessions, mais il n'a jamais perdu son intégrité, frère et sœur. Et je crois qu'un leader qui vaut la peine d'être suivi, c'est un leader qui a le cœur intègre. Moi, je vais vous parler de Pasteur Paul. Comme je vous dis, je connais Pasteur Paul depuis trois ans. Et Pasteur Paul est Pasteur Paul. que vous avez vu tantôt, c'est extraordinaire. Il vit des choses extraordinaires. Mais ce que j'ai eu la bénédiction de voir, c'est que j'ai pu assez rentrer dans sa vie pour savoir que le pasteur Paul, ici devant vous, est le même pasteur Paul dans sa chambre d'hôtel. C'est le même homme. Il ne vous montre pas un show, il ne vous montre pas quelqu'un qui ne l'est pas vraiment. Il est un homme d'incroyable intégrité. Même s'il y a des histoires, là, a pu finir, à dormir debout. Incroyable. Je le sais qu'il n'exagère pas parce que j'ai pu assez passer de temps pour savoir. Parce que moi, j'aime les grands hommes de Dieu, mais quand tu t'approches d'eux, il y a deux choses qui arrivent. Soit que tu t'aperçois qu'ils sont vrais, ou soit que tu es déçu parce qu'ils ne sont pas vrais. Et j'étais béni de savoir. Et ça, il ne sait pas que je dis ça. Il ne serait pas payé plus pour ça. Il ne me payera pas un billet gratuit à Las Vegas pour ça. Je vous le dis juste parce que je sais qui il est et je veux juste le bénir et l'honorer, le célébrer. Amen. Deuxième chose, il se tient entièrement à la disposition de Dieu. Je crois qu'un leader doit se tenir totalement à la disposition de Dieu. Il ne doit pas essayer de dealer avec Dieu pour qu'est-ce qu'il peut faire pour Dieu ou dans quelle place il veut s'impliquer pour Dieu. Un leader doit se tenir totalement à la disposition de qu'est-ce que Dieu veut. De la volonté de Dieu. Excusez-moi, un petit lapsus de 5 jours de moins dormir. Il faut totalement se tenir à la disposition de Dieu. Il faut être sold out. Ça se dit-tu ici? Sold out, vendu à guichet fermé. vendu, ça se dit? Quand un événement est totalement vendu, les billets sont totalement vendus, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de place pour personne d'autre. En venant ici, mon avion a fait l'erreur de booker 4 billets de trop. Bravo. Et il y a 4 personnes qui sont arrivées et ont dit, ben désolé, ils ont demandé plutôt à 4 personnes, il y en a-tu qui peuvent, ils ont booké l'avion de trop. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Quand je suis totalement vendu pour Dieu, il n'y a plus de place pour d'autres choses. Il n'y a plus rien qui peut venir s'asseoir dans les estrades de mon cœur et qui n'appartient pas à Dieu. Et je crois que pour avoir le cœur de Dieu, il faut être totalement à sa disposition, totalement vendu à ce que Dieu est. Pourquoi? Parce que je crois que le leader porte 2 badges, une visible puis une invisible. Et la badge visible, c'est notre position, mais notre badge invisible, c'est notre autorité morale. Et quelqu'un qui sort totalement à la disposition de Dieu peut servir Dieu autant sur la plateforme que dans les toilettes en arrière. Moi, ça, c'est quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être sur la plateforme. Non, ça, c'est... Moi, je suis rendu là. Je suis rendu là. Moi, je ne touche plus à ça. Oui, il y a une place que c'est vrai. Peut-être on va déléguer des choses et on ne fera pas. Mais le vrai cœur, je crois, d'un leader, c'est quelqu'un que s'il voit un besoin, peu importe s'il est appelé dans 10 minutes à aller prêcher en avant, il est capable d'aller aider quelqu'un ou faire totalement d'autres choses. Ça, c'est le cœur d'un vrai serviteur. Jésus n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir. On en reparlait tantôt, mais ça fitait bien, là. Vous savez, pour être ce genre de personne-là, il faut être des leaders très, très sécures. Et malheureusement, on a tendance à être insécures par le moment dans le ministère. C'est pour ça qu'on ne forme pas d'autres leaders, parce qu'on est on est insécures. Parce que si je forme un leader et il prêche mieux que moi, il va-tu vouloir ma job? Puis je vais-tu être obligé de retourner sur le marché du travail? Ou alors, à cause de ça, moi, ça ne me dérange pas si mon jeune que je suis en train de former viendrait un meilleur prédicateur. Ah, tant mieux! Je vais en faire ma job! Un leader n'est pas là pour se faire servir. Un leader est là pour motiver les autres et les faire grandir et devenir qui qu'ils sont. C'est ça, un leader. Jésus est venu. Il est venu, il est mort à la croix, mais sa seule pensée dans la tête aussi, c'était de former 12 disciples. Pour que quand lui était pour être parti, il n'était pas être capable de s'occuper de l'Église de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit. C'est ça l'idée du leadership. Et il y a 3 choses qui sont importantes de faire. C'est nous ne devons rien avoir à prouver. Dans le sens, un leader qui est secure n'a pas besoin de se valoriser lui-même. N'a pas besoin de se vanter aux autres. N'a pas besoin de donner son pedigree aux autres. Il laisse les autres parler pour lui. Nous ne devons rien avoir à perdre, dans le sens qu'on ne devrait pas essayer d'être populaire. C'est pas nécessaire d'être populaire, frère et sœur. Qu'est-ce qui est nécessaire, c'est faire ce que Dieu veut pour ta vie. C'est pas tout le monde qui est appelé d'être sur l'Internet. C'est pas tout le monde qui est appelé à avoir une église de 50 000 personnes. Je veux être un leader de 50 personnes. Jamais de 50 000 personnes, ce serait mon rêve. Mais on a tous différents dons, différents appels. Il faut être capable d'accepter, pas être jaloux de l'autre, pas être jaloux du succès de l'autre, pas besoin de vouloir être populaire pour servir Dieu. Dernièrement, nous ne devons rien avoir à cacher, dans le sens où on ne joue pas des jeux pour mieux paraître. Ça, c'est de l'intégrité encore, frère et sœur. 4e point, on avance. Le leader, donc Dieu se sert, a appris comment vaincre par la prière. Vous êtes d'accord avec ça? Je crois que tout rêve doit venir de la présence de Dieu. Tout ce qu'on fait doit être baigné dans la prière. Je ne sais pas si ça se dit ici, mais Eric, PS, quand à la fin d'un courriel, on écrit PS. Post-script, ça se dit ici? Post-script. Ah oui? Et le P, il vient de où? Post-scriptum. OK. Excusez. Nous, c'est juste post-script. C'est du français québécois. Alors, post-scriptum. Tu sais, on met... P.S. Et on met ça à la fin d'un courriel, comme, « Oh, c'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Voici, je t'ai dit ça, puis P.S. Pour, ah, on peut-tu se revoir? Tu sais, j'ai oublié quelque chose, P.S. » C'est pour être sûr que la personne a oublié, qu'on voit ce qu'on a oublié. Je crois que la prière ne devrait pas être un poste. C'est ça, vous avez tout compris. Je voulais voir si vous parliez... Ça doit pas être un ajout à la vie du leader. Ça doit être la chose la principale dans la vie d'un leader. C'est la prière. Pasteur Paul a dit tantôt, moi j'ai appris de Pasteur Paul, je le sais qu'il prie 3 heures. Et c'est pas une farce, c'est pas une joke, juste pour vous. Parce que j'étais allé 2 semaines avec lui à Vegas et je l'ai vu à tous les matins de 7h à 10h dans la présence de Dieu. Il faisait exprès prêt pour se détourner de nous pour être sûr qu'il était dans la présence de Dieu. Et si j'ai appris une chose de cet homme-là, c'est dans mon agenda, la prière est planifiée. Dans mon agenda de Dieu, dans mon agenda de la semaine, la prière est planifiée. Ce n'est pas quelque chose qui arrive au cas où que j'ai eu une trop grosse journée ou une petite journée, puis finalement j'ai un trou. Non, la prière est planifiée. Je vais tout tasser dans mon agenda pour pouvoir prier et chercher la face de Dieu. Pourquoi je prierais, frères et sœurs? Dieu dit, je cherche des hommes qui vont se tenir, quoi? À la brèche en la faveur du pays. Et je ne sais pas si vous savez, la brèche, c'est oui, comme un trou. Je crois que la brèche est une distance entre 2 choses. S'il y a un trou, c'est parce qu'il y a une distance. S'il y a un trou dans un mur, c'est parce qu'il y a une distance entre la fin d'un mur et le début de l'autre mur. Et je crois que la prière est cette... intercession-là, ce désir-là d'un leader, d'un homme, d'une femme de Dieu, de se tenir entre 2 choses, et ma prière va finalement rapprocher la distance entre 2 choses. Je crois que la prière va rapprocher la distance entre la faveur de Dieu et le pays où nous vivons. Amen? C'est ça que la prière fait. On se tient au gap, on se tient dans la présence de Dieu. Et je crois que quand je viens à la brèche, Dieu est en train de rapprocher la faveur sur la France, la faveur sur le Québec entre le pays où nous vivons. Amen. La même chose. Je crois que se tenir à la brèche en présence de Dieu va nous rapprocher de nous et de la révélation de Dieu pour nos vies. Quand je me tiens à prière, je suis en train de rapprocher la distance entre moi et le rêve de Dieu et la pensée de Dieu pour ma vie. Daniel, il l'a fait. Il s'est mis à genoux. Il a jeûné et prié 21 jours. Et c'est quoi qui est arrivé quand l'ange dit? Elle dit, t'avais déjà ta réponse. Ça a pris 21 jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait un combat spirituel dans les lieux célestes. Il a fallu que l'ange, un autre ange vienne m'aider pour que j'aille. Et Daniel a combattu sans savoir pendant 21 jours qu'il se passait ça. Et en priant, il a rapproché la distance entre la révélation de Dieu et le fait qu'il l'ait eu. Wow! Je crois que de prier, un leader qui prie va rapprocher la distance entre lui et la mission de Dieu sur sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Paul et Barnabas et d'autres anciens de l'Église se sont mis à jeûner et prier, après quelques jours, Dieu s'est révélé et a dit, « Mettez-moi à l'écart, Paul et Barnabas, pour l'œuvre du service. » Wow! Je crois que quand on se tient en prière, on rapproche la distance entre qui nous sommes et la mission de Dieu pour nos vies. Amen! Il faut être des gens de prière, frères et sœurs. Demandez et vous recevrez. Ça dit ici, j'aime le texte ABC, c'est vraiment bon. Demandez, il s'agit d'une prière de foi pour laquelle nous saisissons la promesse de Dieu. Cherchez et vous trouverez. Il s'agit d'une prière de consécration par laquelle nous cherchons la volonté de Dieu. Et dernièrement, frappez, il s'agit d'une prière d'intercession par laquelle nous prions pour une personne, pour un peuple, pour la France, pour Paris, afin que Dieu se révèle. 5e point, il est un fervent étudiant de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui, frères et sœurs. Je crois que la parole de Dieu devrait toujours rester le plus grand livre dans notre cœur. Il y a beaucoup de bons livres. John Maxwell, Paul Goulet. C'est des bons livres et c'est bon de les acheter. Et parce que ça amène une nouvelle dimension. Mais les amis, qu'est-ce qui dit qui va être la lumière sur nos sentiers? La parole de Dieu. Parce qu'il y a une révélation. Et tous ces livres qui ont été écrits, ils ont été écrits parce qu'il y a eu des révélations de la parole de Dieu. Et pourquoi vous n'écrivez pas votre propre livre? Pourquoi vous ne pourriez pas écrire votre propre histoire de ce que Dieu vous a révélé, frères et sœurs? Amen. Il faut être des étudiants de la parole de Dieu. Psaume 119 dit ceci, « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Sixième, on avance. Le leader, donc Dieu se sert à un message vital qui peut changer la vie d'un monde en perdition. Quel est votre message, frères et sœurs? Quel est le message que Dieu a déposé dans votre cœur? Juste pour vous faire une histoire courte, il y a 5 ans, j'étais sur le bord du burn-out, épuisement professionnel. Bien occupé, petite famille, travaillait 2 emplois, en plus d'être impliqué à la jeunesse, à l'église, leader en jeunesse, travail provincial. Et ma mère est tombée dépressive à l'âge de 34 ans. Et l'ennemi a commencé à déposer des mensonges dans ma vie et commencé à dire, ben ça y est, c'est à ton tour, tu arrives au même âge, c'est héréditaire, toi aussi tu vas être dépressif. Et j'étais totalement fatigué, je ne pouvais plus prendre aucune pression. Tu m'aurais demandé de sortir les poubelles, ça aurait été trop là. Je ne pouvais plus rien prendre comme pression. Je commençais à avoir des tics nerveux dans le visage. Vous savez, c'est quoi des tics là? Mon visage faisait ça là. Et si j'aurais pu m'arracher le visage, pour n'en remettre celui de Garou, non. J'aurais pu m'arracher le visage, je l'aurais fait. Parce que j'étais plus capable de m'endurer. Et j'ai commencé à rentrer dans la présence de Dieu. La seule chose que j'étais capable de faire, c'était faire ma route d'autobus, parce que j'étais chauffeur d'autobus. Et quand je revenais à 9h le matin, c'est mettre un CD de louange, me coucher dans le salon et me reposer dans la présence de Dieu. Et je l'ai compté, tu étais là, hein? Et me coucher dans la présence de Dieu. Et ça l'a pris 1 mois avant que le Seigneur enlève tout le stress sur ma vie. Tout le stress dans ma vie. Et je vais être franc avec vous, il y a des moments où je m'endormais après 15 minutes. J'étais tellement fatigué, je n'étais plus capable de rien faire. Mais Dieu m'a totalement libéré, enlevé de mes fardeaux. Et à ce moment-là où j'étais le plus faible, Dieu m'a donné mon message pour ma vie. Il m'a donné le rêve de réunir la province du Québec et de regrouper pour commencer les jeunes, parce que c'était mon mandat à ce moment-là, tous les jeunes de la province du Québec pour prier, intercéder et jeûner pour un réveil dans la province du Québec. Et ce message-là est venu se déposer dans mon cœur comme un tatou sur mon cœur. Ça l'a vraiment imprégné ma vie. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Je ne peux pas m'empêcher de le crier sur les toits. Je me sens un peu comme Jérémie qui dit, « Il y a tellement un feu dans mon cœur que ma bouche n'est pas capable de sortir. Ça veut sortir. Ça veut sortir. Il y a tellement un feu. » Et Paul va dire la même chose ici. « Je me dois de partager. » Je me dois de partager le message. C'est tellement un bon verset. Ça dit, j'ai le vif désir. On peut-tu le lire? C'est dans Romains 1. Qui a Romains 1? Qui a une Bible? Rapidement, Romains 1, 14, 16. Il faut lire ce verset-là. Pourquoi il faut le lire? Parce que la parole de Dieu donne vie à notre âme, frère et sœur. Il faut le lire. Romains 1, ma sœur, t'as ta Bible. Romains 1. Attends, OK.
Et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
On va arrêter là. C'est quoi? Il dit, je me dois. Il faut que je le fasse. J'en ai point honte parce que c'est la puissance de Dieu. Posez-vous la question, quel est votre message? Quel est votre message que Dieu a déposé dans votre cœur? Avez-vous déjà remarqué qu'on a souvent, en tant que pasteur, tendance de parler d'un thème plus que d'autres? Vous n'avez jamais remarqué ça? Bon, phew, je pensais être tout seul. Il y a des fois, peu importe le message qu'on va préparer, souvent, dans chaque message, il y a cette phrase-là, ou ce désir-là, ou ce feu-là qui revient. Pourquoi? Parce que ça nous brûle. Ça peut être la sainteté, ça peut être la grâce de Dieu, ça peut être l'amour de Dieu, peu importe. Dieu vous a donné un message, partagez-le, frère et sœur. Amen. Septième point, le cœur que Dieu se sent fait preuve d'une foi qui s'attend à voir des résultats. On veut une foi qui agit, on veut une foi en action. Est-ce que vous avez de la foi? Est-ce que vous avez de la foi? Avez-vous de la foi pour voir la France sauvée? Parce qu'il y a deux façons de voir le futur. Soit que le monde est condamné, ou soit qu'il y a une moisson. Moi, je vais vous dire que les deux sont en même temps. Parce que c'est vrai que le monde s'en va vers sa condamnation. Mais je crois qu'il y a une moisson aussi qui s'en vient. Et parlez-moi pas de la condamnation, même si je sais qu'elle arrive. Parlez-moi qu'il y a un réveil qui s'en vient. Parlez-moi du positif. Parlez-moi qu'il y a de la place encore au ciel. Parlez-moi qu'il y a de la place encore dans nos églises. Oui, je sais que le monde s'en va pas du bon bord. Mais il me semble que les catastrophes naturelles sont pas mal plus rapprochées dernièrement. Mais il me semble que, je ne sais pas, mais l'horloge, elle va vite dernièrement. Il y a plus de découvertes dans les 10 dernières années qu'il y en a eu dans toutes les autres années avant. Si ça, c'est pas de l'accélération, je ne sais pas c'est quoi. Ça dit même qu'aux États-Unis, il y avait une centaine de tornades par année. Maintenant, ils sont rendus à plus que 1000 par année. Si ça, c'est pas une accélération, je ne sais pas c'est quoi. En plus, nos glaciers fondent. C'est sûr que quelque part, il va y avoir une fin. Mais parlez-moi pas juste de ça. Parlez-moi qu'il y a de la place pour des gens dans le royaume des cieux. Amen, amen, amen. Moi, c'est ça, c'est de la foi. Il y en a qui vont dire, ben écoute, de toute façon, le monde s'en va... Je sais pas si c'est une expression pour ça, mais... Hein? Le monde s'en va à la perte. Il n'y a plus rien à faire. C'est pas vrai qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut continuer à avoir plein de foi, frère et sœur. Prenez ceci, juste une description de la foi qui est vraiment intéressante. Écrivez ceci. La foi croit même quand elle ne voit pas. La foi croit même quand elle ne voit pas. La foi obéit même si elle ne prend pas. La foi croit même si elle ne voit pas. La foi obéit même si elle ne comprend pas. Et la foi persévère même si elle a le goût de lâcher. La foi persévère même si elle a le goût de lâcher ou d'abandonner. Peut-être c'est mieux dire abandonner. Hein? Envie? J'ai dit le goût? Si vous préférez, je ne m'obstinerai pas. Vous êtes en avantage numérique ici, là. Je suis pas en position de force. Elle persévère même quand elle a envie d'abandonner. Elle fait confiance. Une 6, là. Juste pour vous dire le chiffre, pas penser qu'on va continuer pendant une heure comme ça. Elle a confiance même s'il y a des délais. S'il y a des délais. La foi a confiance, même s'il y a des délais. Il en reste deux. La foi voit les obstacles comme des opportunités. Et sixièmement, la foi voit les problèmes comme des possibilités. Alléluia. Donne-nous la foi, Seigneur. On veut développer notre foi, Seigneur. Alléluia. Vous êtes correct? La dernière, c'est la foi voit les problèmes comme des possibilités. Man, huitième point, on avance. Il y en a 12. On avance. Le leader choisit de servir dans son attitude et dans son action. Philippiens 2, 5, ceci, ayez les mêmes pensées. Le mot grec dit, ayez les mêmes sentiments. Ayez les mêmes attitudes qui étaient en Jésus. On en a parlé, alors on restera pas trop longtemps. Mais les leaders arrivent naturellement sur scène quand ils sont déterminés à servir. Moi, je veux des gens autour de moi qui sont prêts à servir. Pour moi, pour voir un leader, c'est quelqu'un qui va avoir le goût de servir naturellement. Joël, qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu t'aider? Peux-tu faire quelque chose pour toi? Ça, c'est des gens qui vont automatiquement devenir des leaders. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé d'être un pasteur de jeunesse. Il n'y a jamais personne. Mon pasteur, à 22 ans, quand j'ai commencé une rencontre jeunesse, il n'est jamais venu me voir. J'ai vu un besoin, j'ai dit, je vais rencontrer les jeunes. C'est moi qui ai dit. J'ai à cœur de partir un groupe jeunesse, il n'y en a pas dans notre église. Et on a passé de 12 jeunes à 70 jeunes en l'espace d'un an. Mais il n'y a jamais un pasteur qui est venu me taper sur mon épaule. Et je suis devenu le pasteur jeunesse par défaut. J'ai créé mon propre emploi. Ça, c'est de la création d'emploi, frères et sœurs. Commencez à servir. Servez de tout votre cœur et vous allez devenir indispensable dans votre église. Faites-le pas parce que vous avez une position. Faites-le pas parce qu'on vous reconnaît ou qu'on ne vous reconnaît pas. Faites-le pour servir. Vous savez, Ponce Pilate et Jésus, les deux se sont servis d'un bac à eau. Ponce Pilate s'en est servi pour s'en laver les mains. Wow, c'est bon ça. Et Jésus s'en est servi pour se mettre à genoux et laver les pieds de ses serviteurs, ses disciples. Moi, je ne veux pas être un leader qui m'en lave les mains. Je veux être un leader qui salit les mains, même si les pieds puent des fois. Le petit fromage. Ici, vous avez beaucoup de sortes de fromages. Alors, il y a beaucoup d'odeurs de pieds, probablement. Nous, on a juste un fromage. Ça s'appelle le Petit Québec. Oh boy! Jésus n'était pas motivé et concentré par la position, mais par les gens et le but. Amen. Neuvième point, on avance. Réveillez les dons qui se trouvent en réveille les dons plutôt qui se trouvent en lui et ceux des autres. On va y aller rapidement, mais développez vos dons. Développez vos qualités. Si je peux juste faire une parenthèse sur ce point-là, développez vos qualités. Vous savez, on peut travailler sur nos défauts tant qu'on veut, mais le risque est que nos défauts deviennent seulement mid-average, je ne sais pas comment, moyen. Parce qu'un défaut, c'est déjà faible. Alors, en travaillant fort dessus, ça risque d'être moyen. Même si moi, je ne chante pas bien et je travaille ma voix, je ne serai jamais probablement Céline Dion. Oui, pas juste la voix, il manque un peu de cheveux puis un peu de nez aussi. Malgré que le mien est quand même pas pire aussi. Mais quand on travaille nos forces, si on travaille à partir de nos forces, on va en parler dans la prochaine session demain matin, mais si on travaille à partir de nos forces, c'est là qu'on va se rendre indispensable. Quel est votre don qui rend que vous êtes indispensable? Il y a trois choses que John Maxwell nous encourage que si vous avez des faiblesses, par exemple, de vraiment travailler en tant que leader, et je vais vous les donner. Si vous avez vraiment des faiblesses avec votre interaction avec les gens, travaillez là-dessus. Travaillez sur vos faiblesses. C'est de la misère à aborder les gens, parler avec les gens, vous adresser aux gens, connecter avec les gens. Travaillez là-dessus. Si vous avez des faiblesses avec votre caractère, s'il y a un manque d'intégrité dans votre vie, je ne vous dirai jamais, travaillez pas dessus, c'est une faiblesse. Travaillez sur votre manque de caractère. Travaillez que Dieu vous molde. Vous savez, vous parlez mieux que moi. Vous modèle à son image. Et troisième faiblesse que vous devez absolument travailler, c'est votre discipline personnelle. C'est de la misère à vous discipliner personnellement. Travaillez sur votre discipline personnelle. C'est trois choses que je vous encourage à faire. On va en reparler dans les priorités. 10. Êtes-vous correct? Vous me suivez? Vous êtes encore là? Est-ce que votre estomac commence à gargouiller un petit peu? Non? Vous êtes bon? Oui? Allons-y, monsieur. Il est quelle heure pour le fun? Juste à savoir quelle heure je dois... 5 heures? 6 heures moins 10? Bon, parfait, ça. On avance bien. Il a suffisamment d'assurance pour mandater les autres. Le leader insécure va développer des suiveurs, mais pas d'autres leaders. Un leader qui est insécure va avoir tendance à attirer les gens vers lui au lieu d'en développer d'autres. Parce que dès que quelqu'un va s'élever, il va penser que c'est une compétition. Je crois que les autres leaders autour de nous ne doivent pas être des compétitions, ils doivent être des compléments. Et ça nous permet de travailler en équipe. Ça nous permet de voir beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de leaders qui sont très naturels, mais dès qu'un s'élève à côté de lui, il l'écrase. Ça m'est arrivé. Une de mes plus grandes blessures dans le ministère. À la même église où j'étais pasteur jeunesse, où j'avais commencé la jeunesse, après 6-7 ans, Je chantais dans mon cœur de passer à d'autres choses, être pasteur jeunesse, mais m'investir plus au niveau de l'Église. C'est ça que je ressentais de la part du Seigneur. Je suis allé voir mon pasteur et je lui ai dit, je ressens ça dans mon cœur. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire avec ça? Puis il m'a répondu, ça prend une onction pour ça. Ça me prend une onction pour ça. Il est en train de me dire que je suis pasteur de jeunesse. À ce moment-là, on était 70 jeunes dans une église de 150. Il est en train de me dire que je n'ai pas d'onction sur ma vie. J'aurais aimé ça une parole d'encouragement à ce moment-là. Ou juste, on va voir ce qu'on peut faire. Peut-être que tu n'es pas encore prêt, mais je vais travailler avec toi. Là, je serais reparti du bureau avec de l'espoir. Mais quand tu me dis, ça prend une onction sur ta vie pour ça, es-tu en train de me dire que j'ai pas d'onction sur ma vie, c'est ça? Je suis reparti de là, je vous dis, là. Et ce leader-là, je vais être franc avec vous, il n'a jamais été capable d'élever d'autres leaders autour de lui. Et l'Église a diminué. Présentement, ils sont 50. Je suis plus là depuis 5 ans, mais présentement, l'Église a diminué, passé de 500 à 50. Quand j'étais jeune, dans cette église-là, l'église de mon beau-père, ils sont à 500 maintenant, ils sont rendus 50. Dans une bâtisse, là, coûte 4 fois ici, là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable, il n'a pas été capable de laisser de la place aux autres. Je ne voulais pas sa job. Je ne voulais pas sa job, j'avais mon mandat, c'était la jeunesse. Mais je chantais que le Seigneur m'a commencé à vouloir, je chantais que je voulais me former pour penser à d'autres choses un jour. Former des leaders autour de vous, frère et soeur. Formés, ils vont être meilleurs que vous. Il y a des bonnes chances qu'il y en ait un au moins qui soit meilleur que vous. Ça fait quoi, ça? Ça fait quoi, ça? Voulez-vous un réveil ou vous voulez que ce soit vous qui soit en avant? Voulez-vous que le réveil arrive juste par vous ou peut-être que vous allez être quelqu'un qui va former quelqu'un d'autre? Et si le réveil va arriver par lui? Amen? Je vous aime. Merci. C'est bon. Je peux-tu être franc avec vous? Je vous aime vraiment. Non, mais je ne disais pas pour... c'est mon deuxième voyage en France. Et on est vraiment cousins-cousines. Sérieux, là? On est vraiment cousins-cousines. Hein? On est frères et sœurs. On est frères et sœurs. C'est vrai, encore plus. Nous, on est vraiment les petits frères, les petites sœurs. Mais j'arrive ici, puis... Je découvre votre mentalité, puis je découvre qui la France est, puis qui vous êtes, puis je dis, wow, on n'est pas tombé bien, bien loin de l'arbre, nous autres, là. On n'est pas tombé loin de l'arbre, parce que je vois. Parce que nous, vous savez l'histoire du Québec, on est les seuls Français dans l'Amérique du Nord, là. Il y a les Acadiens qui sont arrivés un petit peu avant nous, mais. C'est comme notre famille, tu sais, on est tous, on vient français, donc on est le seul qui parle français. Puis quand on sort de nos lignes, dès qu'on sort de nos lignes, on n'est plus dans le même monde. Là. Les Anglais, là, non. Mais je veux dire, c'est une autre mentalité. C'est totalement une autre mentalité. Et je me disais, de où qu'on vient? Et j'ai compris, on vient de vous. On vient de vous. C'est vous qui nous avez fait. Oui. Oui, félicitations. Vous avez des enfants au Québec. Mais je vous aime sérieusement. Vous êtes merveilleux. Je crois qu'il n'y a pas assez de ponts entre le Québec et la France. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont venus, des Luc Dumont, des Claude Houde, et d'autres leaders comme ça, peut-être que vous connaissez, mais je crois qu'il n'y a pas assez de ponts. Il faudrait vraiment un tunnel. Vraiment qu'il y a une autoroute qui s'installe entre le Québec et la France. Parce que vous avez de quoi nous apporter. J'ai rencontré des leaders ici, puis je vous dis, le Seigneur me fait... Il semble pas y avoir d'unité à ce que je comprends dans la France, mais en même temps, ce que je vois, c'est qu'il y a de l'unité qui s'installe. Peut-être que je me trompe, là, vous me pitcherez des tomates après, c'est pas grave. J'étais bon au baseball, je vais les attraper. Mais... je crois qu'il y a vraiment de quoi qui s'installe ici. Je suis béni de rencontrer des leaders comme je rencontre avec Equip. Il y a de quoi qui s'installe. Frères et sœurs, moi qui ai un rêve d'unité pour la province, si je peux vous encourager, travaillez en équipe. Et ce n'est pas pour faire une plug pour la formation qu'on fait. Travaillez en unité. Dieu va faire des choses dans l'unité. La diversité, c'est pas mal. C'est juste différent. Les hommes et les femmes sont différents, vous le savez. C'est pas mal. C'est juste différent. OK, on avance. 11. Oh, ça c'est bon. Il vit sous l'onction du Saint-Esprit. Qui désire l'onction de Dieu? Il faut, les amis, on faut faire moins et être plus sous l'onction. Tout ce qu'on fait sans l'onction va s'épuiser. Tout ce qu'on fait sans l'onction porte pas de fruits, mais, ou minime. Mais ce qu'on fait sous l'onction, il y a la grâce, il y a la puissance, il y a l'autorité pour le faire. Et je crois qu'il faut être des gens qui désirent l'onction de Dieu avant même de faire quelque chose pour Dieu. Ça doit être notre désir d'être dans sa présence. Un peu comme Moïse, à chaque fois qu'il sortait de la tente, j'aime Josué qui est devenu le futur leader. La première chose qu'il faisait, c'est que dès que Moïse sortait, il se faufilait dans la présence de Dieu pour être dans l'onction de Dieu. Et je vais être franc avec vous, je crois que Caleb est un meilleur leader que Josué. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand ils sont revenus du pays, c'est qui parlait? C'était Caleb. Quand ils ont traversé, Caleb a dit à Josué, « Donne-moi la montagne des géants, je vais aller leur donner une bonne claque d'en face. » Caleb est un leader fort. Je crois que Dieu a choisi Josué au-dessus de Caleb pour une seule raison. Josué avait développé une intimité dans la présence de Dieu. Je crois qu'on doit, il faut apprendre à avoir un désir pour l'onction. Je ne sais pas pour vous, des fois, tu sais quand on oint d'huile, des fois les gens, hein, on est vraiment tout doux. Hein? On met une petite touche d'huile, là, on est tout doux avec l'huile. Dans l'Ancien Testament, quand il oignait quelqu'un, là, hein? C'était pas à petite dose, c'était à grande dose. La carafe d'huile sur la table. Le monsieur a une belle barbe ici. Hein? Tout sur la barbe d'Aaron, toi. Puis ça coulait partout. Ça se dit-tu ça? Dégoulinait. Hey! Ils n'ont pas la même langue. Il se dégoulinait de la présence de Dieu. Et qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il était tellement couvert de la présence de Dieu que l'onction dégageait une odeur, un parfum. Et tu pouvais sentir l'homme de Dieu à l'avance avant qu'il arrive quelque part. Pas l'homme de Dieu, tu pouvais sentir l'onction qui était sur l'homme de Dieu bien en avance. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu nous précède, frères et sœurs. Et avant que j'arrive dans une réunion, avant que j'arrive à la jeunesse, à l'église, je sais que si je cherche l'onction de Dieu, l'onction de Dieu va me précéder avant même que j'arrive. C'est pas moi qui fais l'œuvre, c'est Jésus qui fait l'œuvre, frères et sœurs. Amen! Écoute, Paul était tellement dans l'onction que son nom guérissait des gens. Wow! C'est pas lui, c'est son nom. C'est pas son nom, c'est l'onction. Amen. Il faut vivre sous l'onction de Dieu, frères et sœurs. Cherchons l'onction de Dieu. L'onction, c'est pas une habilité, c'est pas un talent, c'est pas un professionnalisme, c'est pas l'apparence. C'est pas de l'art oratoire, c'est pas des émotions, l'onction, c'est la grâce et la puissance de Dieu sur ta vie. Amen. 12e, on arrive. Yes. 12, il a choisi d'être un modèle avant d'être leader des autres. Je crois que Dieu nous appelle à vivre par l'exemple. On en a parlé un peu tantôt. Je crois qu'il faut être avant de paraître, frères et sœurs. Et Dieu nous appelle à être des leaders avec un cœur intègre. À demander au Seigneur, « Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Purifie mes intentions. Purifie qui je suis. Purifie mes désirs. Purifie mon cœur. Qui je suis en avant en tant que leader, je vais l'être aussi en arrière. Et s'il te plaît, enseignez-le aux futurs leaders. » Enseignez-le aux futurs leaders. Pour leur propre bien. Pour leur propre bien. Parce que je souhaite qu'aucun des jeunes leaders qui va s'élever autour de vous monte trop rapidement. Et un moment donné, on dit au Québec qu'il pogne un mur. Je ne sais pas si ça se dit. Qu'il rentre dans un mur, probablement. Il rentre dans un mur, afin qu'il ne rentre pas dans un mur et qu'il lâche le ministère. Il y a tellement de jeunes leaders qui ont été disqualifiés à cause que leur cœur n'était pas intègre. Alors, enseignons ça, frères et sœurs. On finit juste sur le caractère. Vous pouvez voir l'image. La maison du leadership. Les capacités sont le bâtiment. Mais qu'est-ce qui est la fondation du vrai leader? C'est son caractère. Vous savez, je vais peut-être vous choquer en vous disant ça, mais pour un leader, le caractère peut être non essentiel. Il y a des gens qui sont des grands leaders, mais qui ont un caractère pourri. Pourri. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont élevé beaucoup d'argent et ils en ont trompé beaucoup. Ils sont devenus des bons leaders financiers, mais ils en ont floué beaucoup aussi. Des très bons leaders. Vous savez, le caractère n'est pas nécessairement une qualité essentielle pour être un leader. Mais le caractère est la qualité la plus essentielle pour que le leader vaille la peine d'être suivi. Ça, vous pouvez l'écrire. C'est pas, le caractère n'est pas essentiel au leadership, mais est essentiel dans la vie du leader qui vaut la peine d'être suivi. Juste finir avec l'histoire de Samuel. Samuel est un jeune homme qui est devenu un leader spirituel dans le peuple d'Israël et a su garder son cœur intègre. Dès son jeune âge, il a vu un manque d'intégrité dans son père spirituel, Élie. Il a vu qu'il était un homme spirituel à l'église, dans le temple, mais qu'à la maison, c'était pas pareil. Et il a su garder son cœur intègre malgré ça. Non seulement ça, le peuple d'Israël voulait un changement de leadership. Et Samuel a eu tellement le cœur intègre qu'il a accepté la volonté de Dieu et a laissé Saül prendre la place d'autorité sur le leadership. Il n'a pas été jaloux. Et à la place, il a continué de s'investir dans la vie de Saül. Saül a fait des gaffes majeures et Saül a manqué d'intégrité. Mais le ministère de Samuel a continué pendant deux générations pour la seule et unique raison, il a gardé son cœur intègre devant Dieu. Des hommes de Dieu autour de lui ont tombé, mais lui a pu continuer. Ma prière, c'est que vous finissiez ce que Dieu vous a appelé à faire. C'est que vous finissiez ce que Dieu vous appelle à accomplir pour sa gloire. Il y a un verset qui dit dans la parole de Dieu, même deux versets qui dit vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Il y a même un autre verset qui dit, vous avez commencé par le Saint-Esprit. Pourquoi finissez-vous dans la chair? C'est parce que quelque part, le cœur n'était plus intègre devant Dieu. Amen. On va faire un petit exercice, deux petits exercices. Après, on va vous relâcher pour le souper. Il y a deux questions. Et après, je veux que vous priez les uns pour les autres quelques instants. Première évaluation. Si vous deviez faire une auto-évaluation, comment jugeriez-vous votre caractère? Comment est votre cœur de leader présentement? Et l'application va être, quelle activité pourriez-vous entreprendre ou quel domaine pourriez-vous exploiter pour développer un caractère plus solide? En quelques mots, dans les 12 choses qu'on a parlé, dans les 12 aspects qu'on a parlé, est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'être travaillés dans votre cœur? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'être développés? Et si oui, comment allez-vous les travailler? Alors, mettez-vous en groupe encore de 2, 3, 4 personnes, quelques instants, et quand vous allez pouvoir avoir fini d'écrire, je vais vous prier pour la personne devant vous, OK? Les personnes, vous allez vous ouvrir, vous allez peut-être ouvrir une partie de votre cœur, une faiblesse, quelque chose que vous voulez que Dieu travaille. Et j'aimerais ça qu'en tant que frère et sœur, on puisse prendre 5 minutes, 10 minutes pour prier pour les autres.